Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Inside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On analyse, on résume Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai le privilège de recevoir le sémillant Giscal, pertinent dans la pertinence. Comment vas-tu, Giscal?
Ça va très 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 bien. Et toi, Ringside, comment vas-tu?
Oh, la pêche. Je sens tellement bien. Ah. Tellement, tellement heureux avec ce Monday Night Raw qui revit. Là, il y a beaucoup de choses qui sont passées, hein, t'as vu ça?
Oh là là, ouais, c'était la fiesta. Hein.
La fiesta, Paul Heyman, Eric Bischoff qui sont rappelés aux commandes des émissions, des weekly. Paul Heyman pour le show rouge, Eric Bischoff pour le show bleu. Paul Heyman, hein, on va s'attarder un petit peu sur lui, c'était le patron de la ECW à l'époque, le patron du catch extrême, un innovateur, hein, un génie du catch, on peut dire.
On peut le dire.
Voilà, qui a toujours travaillé main dans la main avec la WWE, malgré ce que vous avez pu entendre. Il a toujours été là, toujours dans les coulisses, toujours à traînailler. Il avait déjà eu en charge de SmackDown, je crois, à une époque. Et puis il y a aussi le renouveau de la ECW. Ça a souvent clashé avec Vince McMahon. Mais c'est pas grave, on remet le couvert encore une fois et puis on va voir si ça porte ses fruits. Ce qu'on peut dire, c'est que ça commence très fort. Hein. On était à Dallas, dans le Texas, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui, absolument.
Et on démarre le show avec un affrontement de Golgoth, Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, contre Bobby Lashley, dans un combat false count anywhere. C'est-à-dire qu'on peut faire le tomber n'importe où dans l'arène. C'est tout de suite très violent. C'est les spires de Lashley contre les coups de bélier de Braun Strowman. On va tout de suite aller à l'extérieur du ring. On va se jeter les chaises plutôt à la tête. On va aller se battre dans le public, comme à la vieille époque. Ça n'en finit pas de se foutre dessus. Et puis on va terminer par un énorme spot avec Bobby Lashley qui est sous le titantron et Braun Strowman qui se précipite sur lui pour le faire traverser le décor et là c'est cataclysmique puisque ça explose dans tous les sens. Il y a un feu qui se déclare, on va chercher les extincteurs, les deux hommes sont à terre. Ça se terminera du coup en no contest dans un déluge de feux d'artifice et d'explosions. Et ensuite, tout simplement, les secours vont débarquer, les ambulanciers, tout ce que vous voulez, parce que les deux hommes sont à terre, ils ne se relèvent pas, hein, il y a peut-être eu de l'électrocution, il y a peut-être eu des brûlures, hein, on a un long plan séquence qui est filmé d'en haut avec Corey Graves même qui se déplace pour aller aider nos deux catcheurs préférés qui sont emmenés en ambulance. Et c'est comme ça qu'on démarre ce show. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement titanesque?
Waouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé Monday Night Raw sur du catch. Et puis alors, ouais. Monday Night Raw sur du catch qui cogne, comme ça fait encore plus longtemps, je pense. Cette rivalité tournait en rond depuis un petit moment. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient en venir... concrètement aux mains dans un ring, hein, parce que concours de bras de fer, concours de tir à la corde, tout ça, ça commençait à passablement, je pense, énerver un petit peu tout le monde. Et du coup, j'étais assez content de voir enfin un match soudainement là en ouverture de Raw. Et puis alors, quel match finalement? Moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans cette rivalité. C'est ce que j'ai envie de voir. J'avais plus envie de voir cette rivalité parce qu'ils avaient décidé de ne pas nous proposer de catch. Mais là, soudainement, j'ai un regain d'intérêt parce que quand j'ai deux énormes monstres, deux Golgoth, deux titans comme ces deux-là dans le ring, moi j'ai envie qu'il se passe des trucs comme ça. En fait, j'ai envie qu'ils cassent tout et qu'ils se défoncent la tronche et qu'ils défoncent le décor et qu'ils fassent tout péter, à l'instar de quand le Big Show cassait des rings ou les trucs comme ça. Là, on a eu un spot holy shit comme. L'a dit Corey Graves à l'antenne, d'ailleurs, c'était assez surprenant.
Ça n'a pas été censuré.
Malgré le délai, assez surprenant. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'étais la bouche ouverte là, pendant tout le truc. Un peu long, peut-être, le moment de flottement après, derrière. C'est vrai que ça a duré de longues, longues minutes. Et on verra que pendant le show, beaucoup de références à ce qui s'est passé. Ils ont essayé de jouer la carte un peu du flottement. Hein. On sent que essayer de jouer sur la corde, est-ce que c'était prévu, est-ce que c'était pas prévu, les explosions, tout ça. Donc voilà, ils ont essayé de nous faire mordre à fond dans le truc. Écoute, bon, bah, force à eux hein, d'essayer de jouer à fond ces angles-là. De toute façon, ça marche pas quand on y va à moitié.
Ouais.
Donc ouais, écoute, grosse intro de Raw et enfin, je trouve une bonne utilisation de cette rivalité qui, voilà, qui ils doivent envoyer du pâté, les mecs, c'est des monstres, c'est des bêtes de foire, donc allez-y gaiement, quoi. Donc ouais, ça m'a bien plu.
Exactement, du grand spectacle. Ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt judicieux quand même, ce plan séquence là, comme si on avait une caméra de surveillance qui filmait ça d'en haut. Forcément, quand on zappe et qu'on tombe sur une scène comme ça avec des gens qui sont
ouais,
en train d'être emmenés en civil, on voit bien que c'est quelque chose qui a, enfin, ça a vraiment l'air d'être pas prévu au programme, hein, parce qu'il y a pas de mise en scène au final. Il y a de la mise en scène parce que c'est filmé d'une certaine manière, mais ça a l'air d'être.
Il joue le truc assez épuré en mode de caméra fixe.
Exactement, ouais. Et ça fonctionne mieux que quand ils essayent de faire des montages comme ça souvent dans les séquences backstage de destruction de ce type. Donc ça c'est plutôt judicieux parce que le mec qui zappe il va peut-être rester un moment à regarder simplement comme quand on s'arrête devant un accident de voiture.
C'est un peu ça, ouais.
Et c'est plutôt judicieux, ça rend le truc un peu plus réaliste. Et effectivement c'est ce qu'on avait envie de voir entre ces deux gros monstres là, puis enfin un Bobby Lashley qui est booké costaud, ça fait du
bien. Bah oui, enfin merde quoi. Ouais.
Ah, c'est ça, hein, c'est un Golgoth le gars, faut arrêter de lui faire perdre des matchs ou de le faire passer pour un gozo. La suite des événements. Big E, Xavier Woods, le New Day, affrontent les Viking Raiders, qui sont de retour, on s'inquiétait, on ne savait pas où ils étaient passés. Alors, le match tourne court, puisque Samoa Joe, qui est actuellement en rivalité avec Kofi Kingston, le troisième membre du New Day, le champion de la WWE, et ben il débarque Samoa Joe, puis il s'attaque à Xavier Woods. Et alors là, effectivement, les Viking Raiders se font disqualifier. Mais bon, tout ça, c'est pas grave, puisque après la pub, on a tout réorganisé. Kofi Kingston, qui est venu aider ses copains, se rajoute à l'équation. Et on a un six-man tag match, hein, un match 3 contre 3. Samoa Joe d'un côté, accompagné des Viking Raiders, qui affrontent Kofi Kingston, Xavier Woods et Big E. Ça dure 7 minutes 11. Et la surprise générale, c'est Samoa Joe qui va clouer le bec de Kofi Kingston avec le Coquina Clutch. Kofi Kingston va tourner de l'œil. Et c'est la victoire des méchants, hein,
des méchants, oui,
de
oui,
Samoa
oui.
Joe et des Viking Raiders qui ont agi comme des salauds. Hein. Ils ont aussi attaqué Xavier Woods et compagnie. C'est pas des gentils, hein, les Viking Raiders, si vous vouliez tout savoir.
Manifestement.
Plutôt convaincu par ce début de
feud. Ouais, alors j'ai au début, quand j'ai vu le match annoncé, la Viking Raiders New Day, j'étais comme ça, parce que bon, on connaît mon amour pour la wildcard rule et le copier-coller.
Ah, on en est encore là.
Eh oui, on en
T'as
est encore là.
T'as pas fait ton deuil encore du
Non, toujours
du
pas. Écoute, j'en ai pas encore fait mon deuil, donc tout de suite, moi, ça m'a énervé. Non, et puis au-delà de la wildcard rule, en fait, ça m'énerve de venir. Les Viking Raiders, et ils étaient sur une pente ascendante vers potentiellement les titres de Raw, qui ont disparu. Hein, donc, au demeurant, c'est vrai que c'est pas très important. et pendant ce temps-là, New Day était plutôt sur la pente ascendante vers les titres de SmackDown. Et du coup, ça m'agace, ce genre de match où on met en position des équipes qu'on certainement pas besoin de battre l'autre. Et bon, au final, c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux, parce que c'est vrai que voilà, quand la cloche a sonné, je me suis dit, putain, fais chier, le New Day va battre les Viking Raiders ou inversement, et je trouvais ça un peu stupide. Bon, au final, ils ont fait un choix qui était pas mal, là, d'essayer de croiser tout ça, même s'ils auraient pu garder ça pour SmackDown, je trouve, parce qu'au final, ça va concerner quand même pas mal la ceinture mondiale. Donc voilà, jusqu'au croisement, ça m'a un peu gonflé. Et puis bah après, écoute, ce 3v3 était ma foi pas dégueulasse, avec les Viking Raiders qu'on tirait leur épingle du jeu. J'ai trouvé dans ce match, ils ont été plutôt intéressants, notamment Eric là, qui m'a bien plu. Et cette victoire de Samoa Joe, elle fait du bien. Elle fait du bien parce que bah, il sortait quand même, mine de rien, il s'était un petit peu auto-catapulté dans la scène mondiale là, face à Kofi Kingston à grand coup d'intervention, enfin d'attaque dans le dos. Et il sortait quand même d'une défaite pour le titre US contre le Nabo là, Ricochet. Donc son image en avait pris un petit coup. Là, il faut quand même se dire que Kofi Kingston, depuis WrestleMania, et même depuis avant WrestleMania, depuis qu'il a commencé sa folle montée, il n'avait pas perdu un seul match à la télé. Et du coup, il ne le perd pas tout seul, mais bon, c'est quand même lui qui prend la décision sur une soumission, ce qui n'est pas neutre quand même. Donc j'ai trouvé que ça faisait visuellement, ça faisait du bien à Samoa Joe. Viking Raiders qui ont fait belle impression, le New Day qui reste, eux ils sont intouchables, donc ça me pose pas trop de problèmes. Voilà, écoute, j'ai bien aimé la construction de ce match et le booking final. J'aurais préféré que tout ça se passe à SmackDown, peut-être avec une autre équipe que les Viking Raiders, histoire de conserver un petit peu d'intrigue pour le show bleu, mais bon. Ça c'est plus d'actualité, ça par contre va falloir que je fasse mon deuil, mais bon, c'est comme ça.
Ouais, c'est ça, parce que sinon ça va être difficile d'apprécier les shows dans les semaines qui viennent, parce que j'ai bien l'impression que oui. La White Card Rule est là pour régner un moment. Il la mentionne encore hein, de temps en temps,
ça sert plus à rien, c'est vrai,
c'est sûr qu'on est loin du concept de base et puis qu'on est loin de la séparation des rosters hein. Maintenant voilà hein, il y a les ratings qui chutent, donc il faut bien prendre des mesures d'urgence et rien de tel que le star power, même si on n'en a pas beaucoup à la WWE en ce moment. Il faut bien se rendre compte que le New Day, Roman Reigns et compagnie, il faut les mettre un peu partout pour que les gens viennent regarder. Allez, on va avancer. Bon, en tout cas c'est du booking très intelligent, moi j'ai trouvé aussi hein,
oui.
Avec voilà, bien pour monter l'histoire de Samoa Joe contre Kofi Kingston et puis faire bosser un peu les Viking Raiders qui en avaient pas bien besoin, tout comme le New Day. Toujours sympa de les voir les deux là, toujours sympa. Drake Maverick, notre favori du moment,
oui.
Qui débarque avec sa femme. Elle est canon, sa femme hein, quand même.
elle est mariée maintenant.
Ouais, elle est mariée, et ouais. Ils sont backstage. C'est pour la lune de miel en fait. Ils sont enfin réconciliés. On se souvient que R-Truth était venu gâcher le mariage de Drake Maverick pour lui piquer la ceinture 24/7, qui doit être défendue 24h/24, 7 jours sur 7. Et donc du coup Drake Maverick s'est fâché avec sa femme hein, qui dit qu'il est un psychopathe là, qui fait que penser à cette ceinture 24/24. C'est une obsession. Donc là c'est pour ils sont réconciliés, il lui a fait croire qu'il venait en voyage pour la lune de miel et en fait quand il lui enlève le bandeau, elle se rend compte qu'elle est à Monday Night Raw. Donc ça va pas du tout, mais bon, il lui explique que c'est pas grave hein, après ils iront à la plage. Il y a Dana Brooke qui est là, il discute un peu avec elle et puis il continue à se balader, ils finissent par se réconcilier hein, quand même, parce que l'amour est là. Mais il y a R-Truth qui débarque, qui vient un petit peu se moquer hein, de Drake Maverick.
Oui, il aime bien se moquer en ce moment. Oui.
Ouais, c'est ça. On y reviendra un petit peu plus tard. Parce que c'est pas fini, cette histoire-là.
Ah non.
AJ Styles, dans les couloirs, on rencontre Karl Anderson et Luke Gallows. On est sympa, mais on s'engueule un petit peu. On se
ça se chame, ça,
voilà,
ça se provoque.
Voilà,
hein,
les ouais. Défaites de chaque côté. Alors, c'était un peu les argumentaires de Karl Anderson et Luke Gallows pour mettre en difficulté. Jay Styles, c'est un petit peu délicat parce qu'il dit que tu as quand même eu du mal à battre Ricochet. Même si, bon, au final, il l'a battu. Mais, alors qu'eux, ils ont perdu tous leurs matchs. ça part hein, un peu de la femme de Karl Anderson.
Toujours, ouais.
Voilà, hein, qui est apparemment un canon également.
Manifestement, écoute. Ouais.
Enfin bref, voilà, il y a un projet entre ces trois-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette séquence, mais de toute façon, on y reviendra parce que c'est un des
gros. Oui, en effet, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer un peu plus tard. Mais on voit qu'en effet, voilà, ils se chamaillent, ils essayent de se provoquer un peu, de recréer un peu d'émulation entre eux. Là. Donc,
Ils se motivent les uns les autres en, se, en cherchant la petite bête.
C'est ça.
Cesaro est dans le ring. Il attend son adversaire, Noé José. Le match n'aura jamais lieu, puisqu'il y a Ertrus qui est dans la conga line, hein, comme on dit là, la queue leu-leu. Mais surtout, il y a Drake Maverick qui est ringside avec sa femme, hein, parce que finalement, ils vont quand même regarder le show. Et Ertrus, il vient. Bah voilà, autant profiter. Ertrus, il vient et puis il s'allonge devant Drake Maverick. Et encore, il le tente, hein, c'est le tentateur, Ertrus, parce que Maverick, il doit garder la tête froide et il y a sa femme qui est là, il ne faut pas qu'il se jette sur Ertrus. Bon, tout ça, ça ne fait pas marrer Cesaro qui, une fois que Ertrus est parti, etc., que la fête s'est calmée, défonce Noé Rosé avant que même que la cloche sonne, hein, il va l'exploser à l'extérieur du ring avec un neutralizer, une bonne souplesse aussi. Voilà, pas de chance pour Noé Rosé, mais surtout un Cesaro qui a pas l'air content.
Non.
Et qui fait un joli passage à tabac comme on en a rarement vu. Hein. C'est explosé en deux coups, totale violence à l'extérieur du ring. Convaincant.
Ouais. Ouais, ouais, ça m'a bien plu. J'étais juste content de le revoir déjà à la télé parce que j'avais trouvé assez prometteur son petit passage il y a un mois où il avait tapé un petit peu Rey Mysterio sur une petite série de matchs, Ricochet aussi. Et j'en oublie un probablement, mais il avait une petite phase là où il provoquait un peu les gens en coulisses et il était assez piquant, assez drôle et surtout extrêmement affûté dans le ring. Et puis soudainement, il a eu un petit passage, disparu des écrans télé là pendant 3 semaines. Et donc là, ça me fait plaisir de le revoir parce que, écoute, Cesaro solo, voilà, on y croit toujours un peu. Je me dis que peut-être que là, cette fois, si jamais... en tout cas, ces dernières prestations solo me laissaient penser que... il est quand même assez dingue dans le ring, et s'il lui lâche un peu la bride, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc écoute, voilà, voyons voir. Il a une manifestement là, il est revenu à la télé, ils l'ont fait squasher Noé Rosé, donc ça c'est toujours bien parce que ça veut dire quand même qu'ils essaient de le garder un petit peu relevant, là, un peu costaud. Donc ça c'est positif. Et puis en même temps, voilà la petite interaction bord du ring là, ça m'a encore bien fait marrer entre Drake Maverick et Ertrus, le tentateur en effet, qui est de plus en plus provocateur, presque méchant un peu avec le pauvre Drake Maverick là. On en parlait avec Irem, c'est vrai, l'autre fois. D'habitude il peut être blessant ou vexant malgré lui. Là maintenant, ça fait quand même un petit moment que tu sens que voilà, il y a une sorte de vis un peu en lui là, cette ceinture est en train de le changer. J'aime bien.
Ouais, non, ça c'est plutôt une réussite. Il est très fort, Drake Maverick aussi, je trouve. Ertrus est excellent, mais Drake Maverick
est très bon aussi.
Ouais. Alors je misais pas du tout sur lui, c'est pas quelqu'un qui me passionnait quand il était à la TNA, etc. Il avait eu un long parcours en duo avec EC3, hein. Il était un peu le manager d'EC3. Je vois pas ce qu'il pouvait apporter au programme de la WWE, ben je me suis bien trompé. Hein. C'est un mec qui a l'air motivé, qui est là pour faire le spectacle, pour faire marrer les gens. Et quand il y va pas avec le dos de la cuillère. C'est un mec qui a l'air investi.
Ouais, c'est vrai que j'apprécie au moins, c'est que voilà, il sait qu'on lui a pas donné du matériel de fou furieux pour travailler avec. Hein. Voilà, ça part de pendant des semaines, il était là avec ses tracts à se faire bousculer par toute la foule de geek à la ceinture et puis mais tu vois que quand il est dans des angles comme ça, le mec il se donne à 200% pour nous faire marrer, et au final c'est ça qu'on demande à des gars comme ça du bas de la carte, c'est de saisir ce genre de petites occasions pour nous arracher un sourire, nous faire un bon petit segment divertissant, et il le fait très très bien, je suis d'accord.
Ouais. Sacré carrière, hein, pour le petit anglais. Ouais, j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi toute la low-card, hein, qui est venue en courant essayer d'attraper Ertrus comme d'habitude. Comment il s'appelle ? Cédric Alexander en tête.
Ouais.
Le pauvre. Il est à Main Event si vous cherchez Cédric Alexander, je crois.
Oui, si vous voulez le voir catcher un peu.
Voilà. fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on a backstage? On a une surprise. On a les Street Profits, les champions tag team de NXT qui sont là, interviewés par Charlie Caruso. Donc c'est Montez Ford et Angelo Dawkins, hein, je crois qu'il s'appelle le gros.
Ouais, tout à fait.
Voilà, Montez Ford qui... ouais, mais, le gros, ouais. Peu dans bon point, Angelo Dawkins, elle a passé 25 ans au Performance Center quand même.
Ah oui, quand même.
Montez Ford, lui, bah, il va tenter une petite comme une imitation de The Rock, mais il va être vite calmé par son partenaire. Ils font, ils dansent, tout ça, ils racontent des conneries. Voilà, ils sont là pour, délirer ce soir. Voilà, on est un petit peu intrigué par cette présence là des deux champions tag team.
Ah oui, très intrigué. En effet, je me demandais bien ce qu'ils foutaient là. Puis en plus, ils sont apparus plusieurs fois. Donc, ouais. Bon, écoute, moi je le trouve assez fun. Mais...
ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire intervenir des mecs d'NXT comme ça. Alors, peut-être pas pour les faire intégrer directement le roster, mais avoir des petits passages comme ça de mecs d'NXT en cameo, un truc comme ça peut être intéressant. Puis surtout que ces deux gars qui sont quand même prêts pour le main roster, il y a peut-être un petit peu de travail sur le physique de Montez Ford, mais lui il a l'air, je pense qu'il peut apporter pas mal à Monday Night Raw. Angelo Dawkins il sera bien
en tactique. Non mais c'est ouais, une équipe assez charismatique qui a le bagou, qui a les moves, ça peut, ouais, en effet ça peut être sympa. Moi je les aime bien, moi.
Ouais, ils ont leur place dans le roster. Tiens, on interview du Miz pour changer, qui nous dit que bah, ce soir il affrontera Elias dans un two out of free fall. Et puis bon, il rappelle que tout ça, Shane O'Mac, hein, le nouveau Shane McMahon, c'est un peu sa création. Et puis surtout, il a entendu que l'Undertaker, ce serait là ce soir. Le Miz pour faire tomber Shane O'Mac, et il affrontera Elias ce soir, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, bah, c'est justement Shane McMahon qui nous intéresse avec Drew McIntyre. Ils viennent au ring. Bon, ils nous rappellent qu'ils ont fait du mal à Roman Reigns, tout ça. Ils n'ont pas peur de l'Undertaker, hein, surtout Drew McIntyre, il n'en a rien à faire de l'Undertaker. Et bien mal le reprend, puisque évidemment les lumières s'éteignent, la foudre arrive, même sur le ring. Et oui, c'est l'Undertaker qui débarque, hein, sa musique retentit. Il arrive doucement au ring. Alors les deux autres préfèrent s'écarter. Hein. Ils sont courageux mais pas téméraires. Et puis l'Undertaker va nous faire une petite promo des familles, hein, en expliquant qu'il va bientôt s'occuper de Shane O'Mac et de Drew McIntyre, et qui pourront même pas reposer en paix. Hein,
c'est ça.
Voilà. Hein, Shane O'Mac, c'est peut-être le meilleur dans ce monde, mais là où il sera envoyé, avec son copain, ils seront juste un couple de dames perdues.
Ouais, c'était pas mal, ça.
Ouais, bah, c'est l'Undertaker dans ses œuvres. Hein.
Oui. Ouais, il nous a habitués à des trucs douteux, parfois, hein, mais là, c'était bien.
Mais là, c'était bien. Puis on les déteste maintenant, McIntyre et Shane McMahon.
Bah on a envie de les voir
se faire défoncer.
C'est vrai que s'il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever à Shane, c'est ça. C'est qu'il sait bien se faire détester, pour le meilleur et pour le pire, mais il sait bien se faire détester. Moi, c'est ce qu'on dit souvent quand on a l'occasion de parler du cas Shane McMahon avec Irem, c'est que c'est vrai que pris individuellement, chacun de ces segments sont plutôt bons, moi je trouve. Il est vraiment très très fort dans son personnage actuel, mais le problème c'est qu'il y en a trop. Moi je le vois trop sur ma télé, sur mon écran. Arrow à SmackDown, il a toujours un segment. Au moment où cette vidéo sera en ligne, vous aurez déjà probablement tous vu SmackDown, donc on peut déjà en dire, mais il sera encore à SmackDown pour un.
C'est vrai.
Oui, pour un segment lié, c'est beaucoup beaucoup trop. Donc c'est le seul souci, c'est que c'est dommage parce que je trouve que ça pourrait être tellement plus efficace, distillé avec un peu plus de parcimonie. Mais bon, écoute, En tout cas, une nouvelle fois, pris individuellement, j'ai trouvé que ce segment était très fort. Le début de la promo avec Shane et Drew, là, Drew McIntyre, voilà, ils sont une nouvelle fois détestables et on a envie qu'ils disparaissent du ring le plus vite possible. Là. Et l'arrivée de l'Undertaker, voilà, c'est les frissons, c'est la nostalgie. Ils nous ont ressorti le coup des éclairs. Moi, j'ai encore une fois popé comme, bah, comme la semaine passée quand il est apparu soudainement, complètement en mode « what the fuck mm. ». Donc très sympa, et en plus petite promo, alors là c'est du caviar hein, parce que l'Undertaker d'habitude il se déplace peut-être juste pour s'il dit trois mots c'est du luxe mm. Donc là petite promo, j'ai trouvé avec de belles punchlines, écoute donc sympa, ça, dans l'ensemble ça a donné envie de voir le match du pay-per-view, donc c'est positif.
Ouais, exactement, alors moi je fais pas partie des gens qui aiment pas Shane McMahon hein. Moi j'aime bien Et qu'est-ce que je voulais dire, ben, l'Undertaker aussi, hein. Il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait arrêter et prendre sa retraite. Hein. Moi, ça ne me dérange pas qu'il reste dans le coin. Voilà, on va avoir un petit match 2 contre 2 qui va être plutôt sympa à Extreme Rules, hein, pour peu qu'il rajoute une stipu. Et, yes. Et puis voilà, c'était ce qu'il fallait, un petit passage de l'Undertaker. Là. Alors ouais, d'accord, il a failli mourir chez les Saoudiens. Mais... bon, ça a mis un peu de spectacle. On était contents.
Voilà.
Voilà, ben, là, la suite au prochain numéro à SmackDown, hein, visiblement. J'sais pas, alors oui. Moi, comme je regarde plus trop SmackDown en ce moment, je suis pas trop blasé. Quoi, hein,
ah, bah oui, forcément. De toute façon, c'était un peu. Je crois que c'est la conclusion qu'on avait eue dans notre analyse de la semaine dernière, tu vois, avec IRM. Mmh. Je pense qu'en ce moment, il faut choisir son show. C'est, choisissez votre show et puis. Et puis, de toute façon, vous aurez les récaps de celui d'avant dans l'autre, et puis des segments qui vont déborder sur l'autre. Alors, vous manquerez jamais rien.
C'est ça. Ouais, voilà. Il n'y a rien qui est indispensable, on va dire. Et surtout pas la séquence suivante. Baron Corbin, qui est avec Lacey Evans dans les coulisses, bah, il se la raconte. Hein.
Ah ouais.
Voilà, ils vont dire qu'ils vont péter, ils vont exploser Seth Rollins. C'est, ouais, c'est du blabla, hein. Ils disent qu'il ne faut pas avoir foi en Becky Lynch. Quand on revient, bah, l'Undertaker est encore en train de quitter le ring. Ouais, il nous dit au revoir.
Voilà,
et ensuite, au revoir. Et ensuite, on a un match entre Lacey Evans, accompagnée de Baron Corbin, contre Natalya. Alors, on la voit peut-être moins souvent, mais moi, j'en ai déjà marre hein, de Lacey Evans.
Ah bon?
Voilà, bah, elle gagne le match. Je crois qu'il y a... que Baron Corbin qui fait une petite distraction hein, pour lui permettre de gagner. Et donc, ben voilà, ça fête la victoire. Après, hein.
C'est ça.
Natalya. Et... ouais, c'est ça, hein, c'est Corbin qui distrait
Natalya
qui domine quand même le match et puis elle se prend le Woman's Right, hein, le coup de poing hein, de Lacey Evans qui était tellement costaud. Elle est quand même impressionnante comparée à Natalya hein, au niveau physique.
Ouais,
elle est
ouais,
plus
ouais.
grande, c'est quand même une belle bête. Hein.
Bien, bien bâtie, hein, la blonde. Ouais.
La blondasse. Voilà, bah, du coup, toi, t'es plutôt convaincu par tout ça?
Ouais, écoute, oui. Mais c'est vrai que moi, je m'en cache pas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Lacey Evans. Je trouve que... elle a un personnage vraiment très atypique qu'elle tient extrêmement bien. Je ne vais pas me répéter de toutes les louanges que je dis sur elle chaque semaine, mais j'aime beaucoup sa prestance au micro. Dans le ring, évidemment, ce n'est pas encore ça, mais elle a quand même un truc. Je pense qu'elle peut faire quelque chose de très, très bien avec son personnage. Et là, cette association moi, avec Baron Corbin m'enchante au plus haut point. Je trouve qu'ils ont eu une idée de... pas de génie, hein, mais ils ont eu une excellente idée avec ce qui s'est passé à la fin de Stomping Grounds et ce qu'ils en font maintenant, là, ce nouveau power couple détestable possible fonctionne bien. Le petit segment là, backstage que tu as mentionné, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal avec elle en train de se maquiller, Baron Corbin qui fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir se faire détester au micro avec sa petite tête de connard et ses phrases toutes faites là. Ça, il le fait vraiment très bien. Derrière, la seule erreur, moi je comprends pas, c'est que Natalya, ça devrait être au stade où elle en est, ça devrait être de la chair à canon. Et elle devrait se faire éclater en bonne et due forme par Lacey Evans, même si je comprends la volonté de vouloir amener un peu de triche, parce que c'est ce que Baron Corbin fait de mieux. Mais ça marche pour Baron Corbin. Je trouve qu'à moyen long terme, Lacey Evans, elle aurait plus à gagner à ce qu'on lui donne des victoires de vraiment très dominantes comme ça sur des, sur des adversaires qui n'ont absolument pas sa place dans la carte. Elle devrait défoncer Natalia en deux minutes avec une bonne woman's right et on n'en parle plus. C'est la seule erreur pour moi. Je ne vois pas trop ce qu'elle avait à gagner dans son personnage actuel à profiter d'une, d'une triche de Baron Corbin. C'est vraiment c'est le jeu de Baron Corbin, ce n'est pas son jeu à elle. Donc pour moi, c'est une petite erreur. Mais bon, sinon... Foncez avec Corbin et Lacey, moi ça me plaît. Moi.
Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Tant qu'à faire, autant lui filer des victoires dominantes à Lacey Evans, vu le physique qu'elle a. Hein, on a vu quand même plus, une grosse différence par rapport à Natalia, qui d'habitude ça jure pas trop. Mais là, voilà, on voit vraiment qu'elle a un corps qui est quand même hors du commun. Et bah, c'est un peu le même problème qu'on a avec Bobby Lashley, ou même avec Baron Corbin. Hein, ils paraissent quand même très très faibles, ces mecs-là, alors que ça devrait être des mecs qui dominent quand même pas mal. Voilà, petite erreur de construction de Hill.
Je trouve, ouais.
Hill, c'est les méchants, hein, pour ceux qui parlent pas catch. Ricochet, dans les coulisses, était en train de discuter avec Kurt Hawkins et Zack Ryder, qui lui donne peut-être des conseils pour son futur, hein, quand il sera devenu un jobber, comme tout le monde. Et il y a Charlie Caruso qui débarque, on pose des questions à Ricochet. fait pitié sa promo. Parce qu'en plus, il dit deux fois la même chose, je crois. Il dit si jamais on se réaffronte avec AJ Styles, je pense que je pourrais le battre. Et je crois qu'après, je pense que c'est pas possible que sur un malentendu. Et il y a Anderson et Gallows qui débarquent. Ils disent, tu crois vraiment que tu peux battre AJ Styles? Et il dit, si jamais on se réaffronte avec AJ Styles, il est possible que je gagne. voilà. C'est encore un échec pour Ricochet niveau promo.
Ouais, c'est pas surprenant.
Voilà, donc ce soir...
Mais bon, ils lui ont donné la ceinture US, donc j'imagine qu'ils sont contents.
Ouais, bah c'est le fils de Triple H, si j'ai bien compris. Alors, ensuite Anderson et Gallows, ils vont chercher AJ Styles, ils disent Ricochet, il a dit que si jamais vous vous réaffrontez, bah peut-être qu'il pourrait te battre et que
tu t'es
et que t'étais une lopette. AJ Styles, il va aller le chercher. Ricochet.
Ah bah attends,
il était juste à côté. C'est ça, en train de faire du yoga. Styles vient le voir et dit alors, comme ça, t'as dit que si jamais on se réaffrontait, bah, peut-être que tu pourrais me battre. Figure-toi qu'on va se réaffronter ce soir. Alors Ricochet dit oula, dis donc, tu vas pas par quatre chemins. j'accepte ton challenge. Et il lui tend la main.
Dommage qu'il n'ait pas jeté un gant.
Ouais voilà. Gentleman, quoi, Ricochet. Là-dessus, AJ Styles, je lui mets une claque dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui en rend une tout de suite, quand même, Ricochet.
Ah, oui.
Et là, quand même.
C'est un petit bip sur l'encéphalogramme du charisme de Ricochet, là, qui. Hop, là, il y a une petite pointe. Ouais.
Après, il menace de pleurer, quand même, mais.
Oui.
C'est pas grave. C'est
tenu.
C'est pour ce soir, c'est booké Ricochet contre AJ Styles. Plutôt réussi, non, cette séquence-là.
Ouais, la fin, ouais, c'était pas mal, j'avoue. Parce
ouais,
que là, moi, j'aime bien
Ricochet.
J'aime bien me moquer de Ricochet, et puis bon, en même temps, de toute façon, il fait rien pour m'empêcher de me foutre de sa gueule quand il prend le micro, de toute manière. En tout cas, toute cette partie de provoque avec les Good Brothers qui essayent de semer la merde, la zizanie, en allant d'un à l'autre pour en mode un peu téléphone arabe, là, ils déforment ce que Ricochet a dit pour continuer à. Tu sens que leur mission c'est de provoquer AJ Styles, de raviver la flamme de l'ancienne AJ Styles là, donc ils essayent un petit peu de trouver des moyens de faire ça, et c'était assez sympa, c'était assez drôle à suivre. Et puis voilà, cette petite passe d'armes entre AJ Styles et Ricochet avec les deux claques là, j'ai trouvé ça assez cool aussi. Qui me donne un petit peu plus envie de voir un match entre les deux, contrairement à ce qui s'était passé les semaines précédentes. C'était plutôt réussi la fin de ça.
Ouais, diablement efficace. Chose à redire, donc on les verra s'affronter hein,
Oui.
À la fin de l'émission.
Oui, deuxième main event de suite.
Et ouais. Ça rigole pas. On fait deux fois le même main event, mais on maquille ça quand même bien. Le match entre le Miz et Elias. Two out of three falls. Au meilleur des deux tombés.
Là aussi, ils refont le même match. Ouais. Toi, tu regardes plus SmackDown, mais on l'a eu.
Ah, vous l'avez eu à SmackDown aussi.
Ouais. Avec la même stipule. Hein.
Ouais. Même stipule, ouais. Alors, les... ouais. Bon, pour vous expliquer pourquoi il y a des two out of three falls, des matchs au meilleur des deux tombés, c'est parce que Vince McMahon a décidé qu'il n'y aurait plus de pub au milieu des matchs de catch. Donc, ils mettent en branle tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de catch pendant les coupures.
Quitte voilà. À bazarder une des stipulations les plus sympas.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave, ça se fait beaucoup au Mexique. Ouais. Le Miz attaque Elias tout de suite avant le match. Ensuite, la cloche va sonner. Miz va très vite, hein, il claque tout de suite un double coup de genou dans la face et puis le skull crushing finale. Et c'est la victoire, enfin c'est pas la victoire, c'est le premier tombé qui est pour le Miz.
Oui.
1, 2, 3. Après, ça continue. Elias réussit à placer le drift away alors que Miz essaye de remonter dans le ring. Là. Ça fait un partout. Après la pub, ça continue. Elias contrôle le match. Hein.
Oui.
Et puis c'est le Miz qui gagne.
Ouais.
Avec le figure four, voilà, il réussit à esquiver le coup de genou d'Elias dans le coin du ring qui se fait très mal au genou et puis il en profite pour passer la prise en 4. Donc finalement, ça fait très mal au genou d'Elias qui est obligé d'abandonner. Ah, c'est vite, victoire du Miz.
Ouais, bah écoute, je t'avoue que moi je l'ai vraiment regardé du coin de l'œil ce match parce que comme je te disais, on a déjà eu exactement le même à SmackDown.
D'accord.
Finalement, c'est celui-ci qui aurait dû exister et pas l'autre, avec une victoire du Miz. Le Miz doit battre Elias, il n'y a pas trop de raisons. Il avait perdu un peu bêtement, moi j'ai trouvé, la semaine dernière à SmackDown. Voilà, là, il a gagné de manière relativement dominante, sans bordel autour. Donc écoute, ok, moi ça me fait vraiment chier pour le coup, moi, cette histoire de bazarder le Two Out of Three Falls, parce qu'on en a eu deux à SmackDown la semaine dernière dans le même show. Là on en a encore un, je sais pas si on en aura d'autres, mais en tout cas pour moi c'est une stipulation que j'aime beaucoup et qui est d'habitude utilisée avec parcimonie, justement pour être soigneusement distillée dans des rivalités, souvent avec des catcheurs assez techniques, parce qu'on aime bien du coup les voir faire trois matchs en un, parce que justement ils sont assez techniques, donc c'est souvent c'est une stipu qui va bien à une rivalité de bons techniciens, on va dire. Là ça tombe à plat avec le Miz et l'Elias, il y a pas trop de raison de proposer ça, surtout deux semaines de suite, donc c'est un peu chiant à regarder.
Ouais, bon, ça a été assez vite quand même.
Ouais, quand même 10 minutes. Hein.
Bon, c'est tapé. Bon, moi, de toute façon, le Miz en babyface, ça m'intéresse pas trop. Et puis,
c'est surtout qu'il change de truc comme de chemise. C'est que là, il a parlé de Shane, mais enfin, la semaine dernière, il était de retour sur Shane. Il y a deux semaines, il avait oublié Shane. Et puis, il y a trois semaines, il était à fond à sortir une promo de fou furieux sur Shane McMahon, comme quoi il allait débarrasser la planète de sa création. C'est la girouette un peu, ça m'agace, voilà. Ça.
Puis surtout qu'il fait que perdre. Mais on voit le mec qui est un peu trop yes man et qui a pas pris en main sa rivalité, quoi. Il est obligé de faire ce qu'on lui dit au final.
Sans doute.
Cena n'aurait jamais fait ça. Allez, backstage, on va voir le hit couple, le vrai hit couple du moment. Becky Lynch et Seth Rollins qui sont backstage, interviewés. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans ? Il se chamaille un peu.
Ouais.
Il dit attention, on va pas perdre ma ceinture. L'autre à lui dire, c'est pas toi qui va perdre ma ceinture, tout ça. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a Maria Kanellis qui débarque. Vous l'aviez oublié. Elle est là et elle revendique le fait d'être la première femme de la WWE, et puis d'être aussi le premier couple de la WWE, le couple star, avec son mari Mike Kanellis. Et ce soir, Mike Kanellis, il va donner sa leçon à Seth Rollins. Hein, Maria, elle explique. Hein, moi et ma bitch, hein, en parlant à Becky Lynch, on va te prendre toi et ta bitch. Hein,
voilà, tout simplement.
Becky Lynch, voilà. Bam, ça claque. Ça claque. Et un peu plus tard, ou alors c'est tout de suite, on a le match, le mixed tag match entre Becky Lynch et le champion de l'univers, Seth Rollins, contre Maria et Mike Kanellis. Donc ça dure 3 minutes 30.
3 minutes 30 de plaisir.
De plaisir. Mike Kanellis se fait défoncer. Ouais. Il n'arrive rien à placer hein, contre Seth Rollins. Seth Rollins va même l'utiliser pour faire le tag avec Maria, qui va rentrer dans le ring, mais vraiment à contre-cœur, qui va se sauver assez rapidement quand Becky Lynch débarque. Et là, même au moment de se faire taper, elle va l'annoncer haut et fort. Elle est enceinte.
Eh oui.
Croyez-le ou non. Et elle va. Donc là, Becky Lynch ne va pas la frapper. Hein, on est obligé d'arrêter là. Et Maria, là, elle va partir en fureur. Elle va insulter Mike Kanellis, son mari. Elle va dire : t'es vraiment une lavette, tu me dégoûtes. T'avais dit que tu lui ferais sa fête, que tu essuierais les pieds avec Seth Rollins. Mais t'es rien du tout. T'es qu'un loser. Mike Kanellis lui dit mais comment ça se fait que t'es enceinte et tout. Maria lui dit bah j'en sais rien, je vois pas comment t'as pu m'engrosser. si ça voilà la prochaine fois je me ferai engrosser par Becky Lynch, je crois qu'elle dit ou un truc comme ça.
Ouais je demanderai par The Man.
Voilà et on a le pauvre Mike Kanellis qui reste au milieu du ring comme un loser. Ouais. Il abandonne le match hein, sur le disarmeur hein, de
MMA.
Ah oui bien sûr.
Voilà.
Ouais, bah ouais, écoute, c'était un segment, comme on dit. j'ai pas trop compris. J'étais un peu circonspect en regardant ça. Je me suis dit, mais que vaut toute cette gratuité
Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Mike Kanellis pour
Ouais, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour s'en prendre plein la gueule comme ça, se faire soumettre par Becky Lynch, humilié par sa femme, sous-entendre que sa femme était enceinte mais pas de lui et que c'était même de toute façon il était même pas assez viril pour de toute façon pour lui faire un enfant. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé. Écoute, voilà. Là, en fait, tu peux pas analyser ça parce que c'est tellement gratuit. Faut voir est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour la semaine prochaine ou pas lié à ça. Ou est-ce que c'est juste un truc sans lendemain ouais.
Quel est le projet Kanellis hein.
Ouais, quel est le projet Kanellis? Est-ce qu'il y a un projet Kanellis? Parce que je peux pas croire, en fait. Je peux pas croire que... Il y a autant de gratuité pour rien, c'est pas possible. Enfin, il doit avoir une idée derrière la tête. Pour le moment, je trouve qu'elle est plutôt mauvaise parce que je vois pas trop le truc. Mais écoute, voilà, j'ai rien d'autre à dire que attendons de voir la semaine prochaine parce que je ne peux pas croire qu'on demande à juste un couple, un vrai couple dans la vraie vie en plus. Hein,
c'est du vrai entre les deux. Elle est vraiment enceinte. Hein.
Ouais, et puis elle est vraiment enceinte. Donc je sais pas. Je sais pas.
Ouais, ils viennent de les re-signer pour 5 ans, Kanellis, Mike.
Non, mais il doit y avoir un truc, voilà. Écoute.
Ouais, j'espère qu'ils ont prévu de faire quelque chose avec Kanellis, qui venait de quitter 205, hein, il était à 205. Donc voilà, elle retombe enceinte direct, donc ils sont gentils, hein, ils vont lui payer sa maternité.
Ouais.
Voilà, lui, il sort de cure de désintox il n'y a pas si longtemps. Ils sont vraiment choyés par la WWE, ces deux-là.
Oui, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant. J'imagine, enfin c'est même pas j'imagine, c'est enfin je sais qu'ils ont l'aval de couple Kanellis pour faire ce genre de segment et je ne peux pas croire qu'il y a rien derrière la tête quand ils font ça. Mais enfin là, quand tu regardes juste ça sans contexte, enfin c'est juste tellement gratos qu'il y a pas grand chose à analyser. Là.
C'est vrai, c'était perturbant. Voilà, bon, on se demande qu'est-ce qui va arriver à Mike Kanellis là derrière. Comment va-t-il se relever de tout ça? Je l'aime bien en plus, Mike Kanellis. Je ne l'aimais pas du tout dans le circuit indie, mais à la WWE, je trouve que son personnage, là, il est particulièrement divertissant. Et puis, ça se voyait qu'il était mort de rire avant d'arriver au ring.
Il savait qu'il allait avoir un voilà. truc.
Il savait qu'il était là pour se taper la honte.
Pour bouffer, ouais.
Voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce bon vieux Mikey. Allez, enchaînons avec les filles. Alors là, on revient aux recettes là, qui nous ont un peu endormis ces dernières semaines. Moment of Bliss. L'invité, c'est Nikki Cross. Nikki Cross qui a gagné un match qui permet à Alexa Bliss d'avoir un match contre Bayley.
Oui.
À Extreme Rules. Elles sont interrompues par Carmella. Bah voyons.
Ouais.
Voilà. Qui vient dire que bah, c'est quand même bizarre que c'est pas Nikki Cross qui a droit au title shot. Voilà, elle asticote un petit peu Alexa Bliss. Et puis elle la défie, hein, on va régler nos comptes dans le ring. Et là, le match démarre entre Alexa Bliss et Carmella. Ça dure 6 secondes. Un roll-up, vite fait bien fait, de Carmella. Alexa Bliss a perdu. Après la pub, c'est Nikki Cross qui va affronter Carmella. Et qui va gagner.
Ouais.
Voilà. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé ?
J'en ai pensé que ça me fait chier que des segments... non, mais c'est chiant parce que c'est des segments de SmackDown qui n'ont rien à faire là. Et c'est relou parce que tu... Enfin voilà, encore une fois, t'as pas vu SmackDown, mais enfin, on va avoir la même chose le lendemain. Et du coup, c'est gonflant. Donc, en fait, je peux pas ignorer ce qui s'est passé le lendemain à SmackDown parce que ça... Je vois pas l'intérêt. Nikki Cross, elle est de SmackDown. Alexa Bliss, elle va avoir un title shot pour le titre de SmackDown. Ils ont toute la place. Ils ont 2 heures d'émission pour les mettre le lendemain. C'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec Alexa Bliss qui se prend un roll-up par Carmella et enfin voilà. Bon, écoute, c'est cool que Nikki Cross ramasse des victoires. Moi, je au demeurant, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup cette interaction, cette équipe dysfonctionnelle là. Enfin, pas dysfonctionnelle d'ailleurs. Elles s'entendent très bien. Nikki Cross et Alexa Bliss. Mais en tout cas, cette relation très étrange qu'elles ont. Moi, je trouve que c'est cool et c'est un des trucs qui me fait plaisir à chaque fois que je regarde un programme de la WWE en ce moment, c'est de les regarder. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, mais juste, ouais, j'aimerais bien qu'ils arrêtent d'en mettre des caisses à chaque émission. Donc là, ça m'a fait chier là cette semaine, mais bon.
Voilà. Bon. Voilà, je me prononcerai pas là-dessus. Ça m'ennuie profondément toute cette histoire. Artruf, il est dans les coulisses, il a été poursuivi, donc il est un petit peu au bout du rouleau. Il croise encore une fois que Drake Maverick, qui est avec sa petite valise là, ils sont partis pour aller à la plage. Alors il reste zen. Oui. Et c'est à ce moment-là que quand Artruf a le dos tourné, Drake Maverick lui jette sa valise à l'arrière de tête et il fait le tomber. Il y a un arbitre qui débarque et c'est la victoire de Drake Maverick qui repart avec le titre en laissant sa valise. Et ils sont partis pour aller passer les plus belles des lunes de miel. Bravo Drake Maverick.
Bravo. Et oui. Il va partir en lune de miel avec la ceinture. Il va pouvoir se filmer avec. Je suis sûr qu'il va nous envoyer des stories Instagram et des vidéos Facebook hilarantes. Je suis très content. Qui continuent leurs petits angles comme ça mange pas de pain et ça me fait bien rire, donc j'ai bien aimé.
Ouais, bah oui, c'est rigolo, on attend la suite. Ricochet affronte AJ Styles.
Oui.
C'est le main event, déjà ?
C'est le main event, et oui, comme la semaine dernière, mais cette fois, la ceinture est en jeu.
Et oui. Et bien, la surprise générale, AJ Styles place le Phenomenal Forearm assez rapidement. Tombé, compté, 1, 2, 3, victoire d'AJ Styles, victoire, non, parce que Ricochet avait le pied sous la corde, l'arbitre ne l'avait pas vu, mais il y a un autre arbitre qui l'a vu, oui. Donc du coup ils viennent discuter, et on relance le match après la pub, c'est un match qui reprend, il y a Gallows et Anderson qui sont déplacés, au final, c'est la victoire de Ricochet.
Mmh, absolument.
Ça t'a plu cette victoire de Ricochet, Chris ?
moment là j'entends Giscard dire du mal de Ricochet de... Giscard, si je suis en face de moi là tu te prendrais un 6 Platch, Mood, Salt, Lion.
Mais ouais, nos auditeurs qui le savent pas, mais Chris qui vient d'éclater la porte du studio de ses Rangers là d'un grand coup de pied. Et il, et il est affublé d'un Marcel avec marqué Ricochet.
Voilà, depuis le début.
On sait que Chris était à la recherche de Giscard depuis une semaine. Il voulait lui faire sa fête. Alors bon, séparez-vous, chacun d'un côté, on reste gentleman. Voilà.
Amis de catch-up, n'écoutez pas Giscard, n'écoutez pas Giscard.
Écoutez la voix de la sagesse, écoutez-moi.
Ricochet est un génie, Ricochet est un génie.
Ricochet, un génie qui vient de battre Edge Styles. La fête est de courte durée, puisque Anderson et Gallows vont essayer de s'approcher de lui. Edge Styles les repousse, leur dit de se calmer, hein, un peu comme moi aujourd'hui, pour calmer Chris. Ah. Mais à la surprise générale, Edge Styles se retourne et en colle une à Ricochet. Et c'est parti pour le passage à tabac. Bullet Club style. Des coups de poing. Et surtout, le Magic Killer. Mais surtout, un Styles Clash depuis la troisième corde. Hein. Enfin, de la deuxième corde, plutôt.
Oui, magnifique. Oui.
Magnifique.
Ça, c'est
voilà.
Un catcher, ça.
Vendu par Ricochet. Magnifiquement vendu.
Magnifiquement vendu par Ricochet.
Magnifiquement vendu. Vous verrez, d'ailleurs, Ricochet qui reste au sol avec ses yeux de Merlan Free. D'ailleurs, il allait même pendant ses promos. C'était assez saisissant.
Ah non, mais que quelqu'un me donne une arme, là.
Voilà. Il turn des J-Styles.
Il turn des J-Styles. Retour du club. Écoute, c'était fortement teasé la semaine dernière. Ouais. Et ça a été concrétisé, du coup, cette semaine.
C'est ça. C'est pas la première fois qu'il tease un truc qui serait pas arrivé.
Hein,
je vous rappelle qu'on attend toujours Bray Wyatt.
Lui, par contre, ça fait maintenant 3 rows là qu'il a disparu. Ça m'inquiète un petit peu, ça fait chier ça. Mais bon, écoutez. Très bon main event d'un point de vue catch. Hein, encore une fois, hein, déjà la semaine dernière, c'était excellent. Donc là-dessus, de toute façon, il n'y a pas de sujet. Hein. Ricochet est un très bon catcher, heureusement pour lui, sinon il n'aurait pas de. Derrière le pauvre, il a que ses flips dans le ring pour lui, donc il faut bien quand même qu'il ait quelque chose.
Que quelqu'un tue le chien.
Non mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé après le match me donne pas mal d'espoir en tout cas sur la suite, parce que AJ Styles, je trouve qu'il avait un besoin cruel là de changement de dynamique. Je suis très content de revoir le club réuni, parce que moi, perso, la phase beat up John Cena à l'époque avec le club qui s'attaquait à John Cena, j'avais trouvé que Gallows, Anderson et AJ Styles étaient excellents à cette époque-là. Donc, je suis bien content de les revoir tous les trois ensemble. Et écoute, voyons voir ce que va donner maintenant cette rivalité. Avec ce changement de décor complet, hein. Là, Ricochet se retrouve seul contre 3, ça va être compliqué pour lui. Est-ce que finalement on lui a filé la ceinture pour la faire transiter sur les hanches des AJ Styles? Moi, ça me plairait bien. On va voir tout ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, voilà un main event qui, avec un petit peu plus de piquant, un petit peu plus de sel que celui de la semaine dernière, grâce à ce twist. Donc, bien.
Voilà, satisfait aussi, Chris, non?
Satisfait du main event?
Oui.
Ouais?
Ah ouais, satisfait du main event, ouais. En plus, moi, je suis assez fan de AJ Styles en heel, donc je trouve ça très...
Ouais.
Et puis Ricochet,
ouais, moi aussi, hein.
Ricochet est tellement génialissime, de toute façon, que de toute façon, ça ne pouvait faire qu'un main event quasiment 4 étoiles, quoi.
Il fait partie de la secte de Ricochet.
Okay. Moi, j'ai adhéré, quoi. J'ai adhéré à cette secte il y a à peu près 4 ans, 5 ans de ça. Et depuis, je n'en démords pas. Et du coup, je menace de mort Giscard sur Catch-Up.
je reçois des lettres étranges.
C'est ça,
oui.
Des cœurs de cochon. Écoutez, vous vous rendez compte qu'on a fait toute l'émission de Monday Night Raw, on est arrivé au bout et qu'il va falloir donner le mot de la fin.
Oui.
Alors, un top, un flop, une note fiscale.
Alors mon flop il va à la girouette Lemise qui me gonfle un petit peu là un coup il envoie des promos enflammés sur Shade, un coup il oublie je sais pas en fait bon alors après voilà je sais pas ce qu'on lui file mais Arrow il peut faire ci à SmackDown il fait ça c'est compliqué à suivre cette histoire on a l'impression que c'est qu'ils essayent de garder Lemise un petit peu dans l'antichambre de la feute quand Shane McMahon sera libre, mais qu'en même temps, Shane McMahon, il n'est pas complètement libre. Alors du coup, on peut pas lâcher les chevaux pour allumer le truc. Enfin, je trouve que la dynamique est très bancale et Lemise passe un peu pour un clown depuis 4-5 semaines à cause de ça. Et ouais. ça m'emmerde. Donc voilà, il a mon flop, mais bon, c'est plus sa gestion qu'à mon flop. Écoute, le top cette semaine, je vais le donner à ce segment de main event et ce heel turn de AJ Styles que j'ai trouvé très sympa, très bien foutu et bien amené pendant toute l'émission. Voilà, c'est une sorte de top un peu fil rouge sur ce rôle, les petits segments entre les Good Brothers et AJ Styles qui culminent jusqu'à ce turn un peu coup de poing là en fin d'émission. Qui était très sympa et qui me donne de l'espoir sur cette mid-card de Raw qui avait bien besoin d'un petit coup de fouet là comme ça donc ça me fait plaisir et ma note cette semaine c'est un 3 quand même j'ai trouvé que c'était pas un mauvais Raw dans l'ensemble c'était beaucoup plus focus que la semaine dernière dans le sens où tous les segments dans l'émission quasiment faisaient avancer une storyline et en tout cas racontaient quelque chose. Vraiment, du début à la fin, on sentait qu'il y avait quand même un souci de vouloir vraiment remettre le nez un petit peu dans les storylines et faire quelque chose. Donc, alors que la semaine dernière, c'était vraiment un calvaire, j'ai trouvé. Donc voilà, 3. Écoute, moi, j'ai plutôt passé une bonne émission.
All right. Chris ?
Yes, je donne mon top, mon up et ma flop.
Bah oui, allez, pour rien comme ça.
Mon flop, moi je vais le donner au segment Carmella, Kikross, Alexa Bliss que j'ai trouvé complètement con.
Ok. Je
trouve complètement con l'histoire de Nikki Cross qui bat Bayley pour que Alexa Bliss elle ait un shot et puis finalement. Carmella, elle vient, et puis finalement, elle bat Alexa Bliss en moins de 10 secondes, et puis que derrière Nikki Cross, elle gagne. Donc, j'ai trouvé ça, mais d'une débilité. Mais en fait, je me suis demandé si la WWE me prenait pas pour un espèce de gros beau obèse Smarks. Je ne suis pas.
Moi, ils me l'ont dit.
Ah, ils te l'ont dit.
Je voulais pas pas que tu sois vexé.
Oui, mais on a reçu un message.
Ouais. Ouais.
Il est très svelte.
Ouais.
Peut-être pour la semaine prochaine, ça va changer.
Voilà, tout à fait. Ouais. Je suis vieux, mais je ne suis pas gros. Je ne suis pas un smart obèse. Et du coup, ça m'a particulièrement gêné. Donc, c'est mon flop va sans aucun problème à tout le segment avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Mon top. Even, quoi. Il va ricocher, il va à AJ Styles. C'était du pur bonheur, ce main event, quoi. Moi j'adore, hein. Moi je trouve qu'il y a de l'alchimie entre les deux dans le ring, que leurs deux styles sont tout à fait compatibles et que du coup ça envoie du lourd. Bon, j'ai été un peu surpris, peut-être comme tout le monde, sur le coup, sur le premier arrêt, le premier compté, le premier tombé qui a été donné, et puis effectivement il y a l'arbitre qui débarque et qui dit non, ça se passe pas comme ça.
Ouais, ça c'est vraiment quand ça les arrange, ça. Hein.
Ouais, c'est vraiment quand c'est. Mais en fait, ce qui les arrange, c'est la publicité, parce qu'en fait, apparemment il y avait de la publicité à envoyer dans la version américaine.
C'est ça.
Donc du coup, au moment où John Cole, le public, l'arbitre est arrivé, en fait, ils en ont profité aux États-Unis pour balancer la pub.
Ouais, c'est pour ça aussi que Carmella, elle bat en une seconde Alexa Bliss.
Tout à fait.
Et que t'as le match des... Des tag teams qui se terminent par une disqualification avant qui redémarre en 3 contre 3.
Ah ouais, d'accord. Et moi, tu vois, moi, je suis un grand naïf. Moi, tu vois, j'ai pas vu toutes ces ficelles.
Quelle acuité ce ringside, mais c'était.
Ah ouais. Donc, ils vont nous casser les couilles chaque semaine comme ça maintenant.
C'est ça, okay. Ça va être comme ça maintenant.
Ouais, ouais, okay.
Il va falloir s'y faire. Voilà. Et donc du coup voilà mon top va au main event sans coup férir. Et ma note, bah écoute ma note ça sera un 3. C'était pas trop mal. J'ai pas suivi tout ce que vous avez dit. Je suis arrivé un peu tard. Mais il y a eu plusieurs trucs que j'ai trouvé sympas. La destruction du Strowman la tête à la fin là, c'était un peu délirant, un peu nawakesque, mais en même temps c'était plutôt sympa. J'étais très satisfait de revoir les Viking Raiders, de me rendre compte qu'ils étaient encore en vie. Et ça m'a fait plaisir. J'espérais qu'ils n'avaient pas eu une maladie ou un truc comme ça. Et donc du coup les revoir c'était très sympa. Et c'était un roux plutôt pas mal, assez dense quoi, avec quelques trucs pourris comme d'habitude, mais plutôt dense. Donc allez, je lui mets un 3. Je suis chaud.
Ah, voilà. Écoute, voilà. Il vient de nous refaire une analyse express là. C'était oui, parfait.
Exactement. Voilà. Ouais, on se casse la tête. Hein.
Ouais,
pendant une heure, ça pourrait être.
Ouais, ouais. Voilà. On peut parler juste pour finir, c'est sur l'histoire du segment des couples là.
Je vous ai pas. Il fallait donner ton flop. Hein.
Non, non, je voulais pas leur donner mon flop, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Vous allez peut-être m'expliquer en fait. C'est que pourquoi la nana elle vient sur le ring si elle est enceinte? Et
elle pensait que son mari allait faire le boulot et puis qu'elle aurait même pas besoin de catcher.
D'accord, mais comment ça se fait qu'après elle pourrit son mari comme ça à la fin? Vous avez pas des infos là?
Non, c'est un truc mal écrit, hein, je crois.
Je pense que c'est un truc mal écrit.
C'est juste la merde, quoi. Ouais, ils se sont dit ça serait marrant de voir une gonzesse humilier son mari.
Ouais, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Mm.
Ouais, et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a des progrès à la WWE, puisqu'on parle de PMA, hein, étant donné que Mariah propose que Becky Lynch la mette enceinte. Moi, j'ai trouvé une avancée quand même pour les droits humains dans le catch, vraiment très très importante dans le cadre de ce segment.
Ouais, exactement. On n'a pas peur du futur à la WWE. Ouais bah tiens, c'était mon top justement, Mike Kanellis. Je suis obligé de lui donner. Hein. Il s'est fait humilier comme c'est. Ah ouais bah oui attends le mec.
Ça fait plaisir. Ça.
Il a donné de sa personne. Hein.
On peut pas lui reprocher ça. Hein. Ouais.
On peut pas lui reprocher ça. Barry Chris.
C'est la conclusion la plus longue de l'histoire.
Ouais, attends. Mon top, je vais le donner à qui, mon top
Trop tard, tu l'as donné à Kanellis.
Ah ouais, j'ai donné à Kanellis, bah, c'est pour ça que je ne trouvais pas qui donner. Et mon flop, je vais le donner à Lacey Evans, là, j'en ai marre de sa gueule.
Oh.
Voilà, sans plus d'argumentaire.
Parfait.
Il y a encore du boulot, elle devrait être NXT. Elle a travaillé un petit peu ses gammes. Et voilà, puis un bon 3, hein, comme tout le monde. C'est bien, ils ont travaillé des trucs, il y a eu du grand spectacle. On sent qu'ils essaient d'avoir de la cohérence et de bouger un peu les lignes. Il y a de l'innovation au niveau de la réalisation, etc. On sort un peu du PG hein, avec des gros mots.
Oui, je me suis demandé, on en reparlera peut-être plus tard, mais ouais, si c'était pas un peu sur les deux shows, une sorte de réponse à leur façon.
Un autre show qui était très chaud. Ouais, bah voilà, ils ont montré les muscles un petit peu, la WWE. Voilà, bah on c'est l'heure de l'autopromo, c'est ça. Ah, oui. Hein, voilà, alors on est sur YouTube, on est sur iTunes, on est sur Spotify, on est aussi sur Twitter, on est également sur Facebook, vous nous trouverez sur Instagram. Toutes les plateformes
sont
disponibles. Et ce qu'il faut faire, c'est s'abonner et mettre des likes et des commentaires pour nous dire que vous nous aimez.
Hein oui. Comme et ça, on peut vous répondre. Merci.
Merci.
Aimez-nous.
Vous pouvez aussi mettre des pouces vers le bas, si vous le souhaitez.
Oui.
Et je vous insulterai en direct la semaine prochaine.
Ou en
enregistré.
Aimez-nous, détestez-nous, mais faites quelque chose, quoi. Soyez pas indifférents.
C'est ça. Alors voilà, toutes les semaines, hein, on vous analyse, on vous résume Monday Night Raw, SmackDown et compagnie. On va vous faire une analyse, je pense, de Fighterfest, le show de la All Elite Wrestling. Et l'analyse de SmackDown s'en vient dans la semaine également. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Giscal, bonbon, c'était un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup d'être venu.
Très agréable, merci de m'avoir reçu.
Oh, je t'en prie, toujours une place pour toi chez moi, comme au studio. Chris, hein, il faut.
Quelle incursion!
Bravo, merci de t'être déplacé et tu payeras quand même pour la porte. Hein.
Bon, vraiment, entendre Giscal parler de Ricochet comme ça m'a tellement secoué quoi, que j'ai pas pu m'en empêcher.
Ben, bravo. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. À bientôt, ciao ciao.
Allez, ciao tout le monde.
Salut papa, catch up. One and only.
Ok, je vais garder ça si tu veux.